Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour et bienvenue à cette rencontre organisée donc par la librairie Mola autour de l'ouvrage Le Grand Tournant, avec point d'interrogation, en présence donc de l'un des co-directeurs de l'ouvrage, Dominique Vidal. Dominique Vidal est journaliste, après une formation en histoire et en philosophie. Il a notamment collaboré au quotidien La Croix. Et ensuite, il a rejoint, il y a une petite quinzaine d'années, une grosse dizaine d'années, le monde diplomatique, où il est toujours donc actif comme journaliste. Dominique Vidal s'intéresse à l'ensemble des questions internationales. Son point fort, je crois pouvoir le dire, porte sur les conflits au Proche-Orient, qu'il analyse à la fois dans leur dimension régionale et... peut-être tout aussi intéressant, sinon plus, la répercussion de ce conflit ici en France, dans les banlieues, donc avec les communautés potentiellement pro-palestiniennes d'un côté et pro-israéliennes de l'autre. Alors, il va nous faire une présentation à la fois très rapide de cet annuaire, le Grand Tournant, et ensuite, il va, pendant une demi-heure, exposer donc, son analyse de l'un des conflits majeurs contemporains, le conflit israélo-palestinien, les conflits au Proche-Orient, ce après quoi le débat pourra commencer avec la salle, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Lorsque j'ai appris ce matin, heureusement tôt, que je ne venais pas présenter le livre, mais vous faire ce qu'on appelle une conférence, je me suis dit, de quoi vais-je donc parler ? Et au fond, je me suis dit qu'il y avait une logique à réfléchir sur les grandes tendances de l'évolution du monde contemporain telles que l'état du monde les analyse, à travers la situation au Proche-Orient. Parce qu'après tout, elle est, comme toujours, très riche, riche de deuil et de souffrance, mais riche aussi de possibilités, contrairement à ce que certains disent. Alors, je commencerai par l'état du monde. Comme vous savez, enfin, ceux d'entre vous qui ont dépassé cet âge, 30 ans, c'est la jeunesse, en tout cas pour les hommes et pour les femmes. Mais dans le monde de l'édition, et M. Mola pourrait le dire mieux que moi, c'est déjà un âge avancé, pour ne pas dire très avancé, 30 ans. Or, l'état du monde, ce livre que je suis venu présenter, a presque 30 ans. Il est né en 1981 et il a battu d'ailleurs, dans ce domaine en tout cas, beaucoup de records d'édition. C'est presque un classique. Ceux d'entre vous qui ont été étudiants dans les années 80 ou 90 se souviennent, avec plus ou moins de bonheur, de l'utilité de l'état du monde pour leur révision et pour la réflexion en général dans leur domaine. Mais en même temps, dans le monde, beaucoup de choses ont changé depuis 30 ans, et en particulier dans le monde de la communication. Et dans ce dernier, ce qui a surtout changé, c'est l'apparition d'Internet. Internet qui est devenu en quelques années un vecteur majeur de communication, avec sa force, c'est-à-dire une masse inouïe de connaissances accessibles très rapidement, presque instantanément, mais aussi avec sa faiblesse, c'est-à-dire l'absence de vérification des informations, l'absence de hiérarchie de l'information, bref, une certaine absence de fiabilité. Et au fond, c'est dans ce monde de la communication tel qu'il a évolué que l'état du monde, lui aussi, a évolué. Et aujourd'hui, disons depuis 3 ans, pour être précis, il s'est dédoublé. Il y a ce que vous ne voyez pas ici, c'est-à-dire le site Internet de l'état du monde, qui est une véritable encyclopédie, une encyclopédie rigoureuse, dirais-je, pour la comparer à une encyclopédie gratuite et qui n'est pas rigoureuse, elle, qui entraîne même les étudiants dans des abîmes d'erreurs, et pas seulement les étudiants, parfois. Et donc, 8000 articles signés de spécialistes renommés de ces différents pays, régions, problèmes thématiques, se retrouvent dans ce site Internet. C'est le plus gros site de relations internationales existant sur Internet. J'ajoute que si vous prenez un pays, peu importe lequel, dans ce site, vous y trouverez une chronologie détaillée de presque 30 ans, et pour cause, des bilans annuels année par année, une vision à travers synthétique, à travers une fiche signalétique, une carte, enfin, je ne vous détaille pas tout ça, mais disons que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je le dis d'autant plus tranquillement que je n'ai pas de responsabilité. Si j'en avais, je ne me permettrais pas de tresser les louanges du site. Je n'ai pas de responsabilité dans le site, même si j'ai relu cette année l'ensemble des nouveaux articles consacrés à l'année en cours. Et puis vous avez l'autre, je dirais la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire le livre « L'état du monde », qui rassemble une cinquantaine d'articles de spécialistes, à la fois pédagogiques, mais aussi assez pointus, sur autant 50 points forts de l'année en cours dans le domaine des relations internationales, de l'économie, des sociétés, des nouvelles technologies, de l'environnement, des conflits régionaux, évidemment. Disons que c'est un éclairage approfondissant la réalité, à la fois de manière transversale et thématique. Je précise pour ceux qui seraient intéressés que l'achat du livre leur permet d'avoir accès gratuitement, bien sûr, au site avec un code qui est fourni avec le livre. Et personnellement, j'espère que l'an prochain, sans en être tout à fait certain, ça dépend de la découverte, une partie du site sera disponible gratuitement pour tous. On est en train d'étudier la manière de faire. Vous vous doutez qu'un site aussi énorme pose des problèmes de financement qui ne sont pas des problèmes légers pour un éditeur aussi renommé soit-il comme l'est la découverte. Autant vous dire et vous avouer d'emblée que je penserais évidemment absurde et prétentieux de prétendre faire maintenant le tour des 50 thèmes abordés dans le livre. Je vous avoue, outre le caractère fastidieux de l'exercice, ce serait bien au-delà de mes compétences. Donc je vais essayer de faire deux choses. Premièrement, expliciter le titre que pour la première fois nous avons donné au livre. Avant, il n'y avait pas de titre, c'était simplement « L'état du monde ». Et nous avons choisi « Le grand tournant » avec un point d'interrogation. Et je vais ensuite essayer de vérifier avec vous, à travers l'exemple du Proche-Orient, si cette manière de voir les choses est pertinente et quelles sont à la fois ses forces, là aussi, mais aussi ses limites. L'idée de grand tournant, surtout avec un point d'interrogation, nous place bien sûr d'emblée au cœur de l'analyse et du débat sur le caractère historique ou non des évolutions en cours à l'échelle mondiale. Pour moi, je vous le dis immédiatement, il est clair que le cadre international dans lequel nous vivons est en train de changer profondément. Nous avons vécu, enfin certains d'entre nous ont vécu, je vois ici certains qui n'ont pas vécu bien sûr, 40 années dans un cadre apparemment simple, celui de la guerre froide, caractérisé par l'affrontement de deux superpuissances qui se battaient aux quatre coins de la planète à travers leurs alliés, mais tout en veillant à ne jamais franchir la ligne jaune qui nous aurait précipité dans l'apocalypse nucléaire. C'est ce qu'on appelait à l'époque l'équilibre de la terreur. Les deux grands, pour être clair, encadraient et contrôlaient leurs alliés respectifs de telle manière à ce qu'ils n'aillent pas trop loin dans leur face-à-face. J'ajoute, pour être dans la nuance, que la notion même de deux superpuissances est un peu schématique. Parce que si les États-Unis l'étaient, une superpuissance, sans aucun doute, l'Union soviétique l'était essentiellement sur le plan militaire. Pas pour le reste. Ou alors, il faudrait nous expliquer comment le monde communiste tout entier, ou presque, a pu s'effondrer en deux ans. Comme un château de cartes, ou quasiment. Il faut bien croire qu'il n'y avait pas là une superpuissance capable de résister au choc. Nous avons vécu ensuite, après donc la chute du mur de Berlin et l'éphémère illusion du nouvel ordre international, vous vous souvenez, pendant la guerre du Golfe,
nous avons vécu la transformation de la seule superpuissance, survivante de la guerre froide, en hyperpuissance. La formule était de notre ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine. Il l'a beaucoup utilisée. Mais, n'en déplaise à Hubert Védrine, pour lequel j'ai le plus grand respect, la plus grande estime, ce concept d'hyperpuissance n'a pas tenu le choc. La fragmentation du monde s'est accélérée, et on n'a pas été du tout dans le sens d'une uniformisation, comme on nous le disait à l'époque. La mondialisation a progressivement montré ses limites, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Et après le 11 septembre, l'Empire américain, comme on disait à l'époque, s'est embourbé en Irak, en Afghanistan. Et non seulement ce déploiement de forces ne lui a pas permis de sortir de ses bourbiers, mais il a profondément entaché l'image des États-Unis dans le monde. Bref, tout cela pour dire, en rappelant un tout petit peu le cadre antérieur dans lequel nous avons vécu, que nous sentons bien tous, je crois, que nous sommes entrés dans une phase historique nouvelle, que les grilles de lecture du passé, qu'elles soient marxistes, anti-marxistes, surréalistes ou autres, ne permettent pas bien de comprendre. Comme le dit Bertrand Badi de manière très pertinente, je trouve, dans son introduction, nous sommes aujourd'hui confrontés à une grammaire du monde assez bricolée. Est-ce qu'on se trouve pour autant dans un grand tournant à côté duquel notre point d'interrogation serait purement rhétorique? Je ne le crois pas. Qu'il y ait grand tournant, c'est clair à beaucoup d'égards. Je ne veux pas ici développer chaque élément. Prenez simplement, par exemple, les relations entre les États-Unis et la Chine. Certains observateurs ont dit que l'invention du G20 cachait en fait le G2. On pourrait dire plusieurs G2, parce qu'il y a aussi un G2 avec la Russie, et un G2 avec l'Europe. Mais enfin, il y a visiblement un G2 américano-chinois où chacun des deux partenaires, si vous me permettez l'expression trivial, se tient par la barbichette. Les Chinois ont sauvé le dollar au moment de la crise financière il y a presque un an. Mais en même temps, s'ils ne l'avaient pas sauvé, ils auraient perdu les extraordinaires richesses qu'ils ont accumulées en bons du Trésor américain. Donc, vous voyez, il y a là quelque chose qui change complètement les données du monde traditionnel qui, il y a 10 ans ou 15 ans, aurait mentionné la Chine comme un élément autre que futur déterminant. Donc je crois qu'il y a tournant, mais il est trop tôt au fond pour dire où nous en sommes dans ce tournant. Et c'est là le sens de ce point d'interrogation. Et la difficulté n'est pas une difficulté seulement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de grille de lecture à inventer ou à réinventer. Elle est aussi une difficulté à savoir de quoi l'on parle. Certaines évolutions dont nous parlons, lorsque nous parlons de grands tournants, sont de nature conjoncturelle. Je pense, par exemple, à la politique étrangère du nouveau président américain, qu'il est bien sûr beaucoup trop tôt pour juger globalement. On attendra au moins, on le verra pour le Proche-Orient, qu'il passe des discours aux actes, pour pouvoir avoir une appréciation. Je vous mets en garde contre les modes médiatiques qui consistaient à présenter Barack Obama comme le Messie lorsqu'il a été élu et à se livrer maintenant au jeu, au sport national américain de l'Obama bashing, c'est-à-dire de dire du mal, si je puis dire simplement, d'Obama. Il y a d'autres évolutions dont nous parlons aussi quand nous parlons de grands tournants, qui sont de nature mi-conjoncturelle, mi-structurelle. C'est le cas, par exemple, des conflits en cours. On voit bien que le conflit israélo-palestinien, par exemple, dont nous allons parler tout à l'heure, a sa propre logique historique. Et là, il y a des tendances lourdes, mais aussi une actualité qui tient aux hommes en place, aux événements, aux coïncidences. Bref, on est aussi dans la conjoncture. Et j'en dirai autant, quitte à être réprimandé par l'un ou plusieurs d'entre vous, de la crise financière qui est devenue ensuite crise économique et sociale. Bien sûr, c'est une crise conjoncturelle, puisqu'elle touche à un moment donné du développement de la mondialisation financière, notamment. Après d'autres crises, il y a celle-ci. Elle s'inscrit dans une suite de crises dont la crise asiatique a été sans doute la plus prémonitoire de ce qui allait se passer. Mais c'est aussi la crise d'un système néolibéral et, je dirais, d'une utopie qui consistait à penser que le monde pouvait être géré sans instance politique, que le marché, avec sa grande main, allait gérer le monde. Et l'on a bien vu que tous les dirigeants de la planète, ou presque, à peine la crise éclatée, se sont immédiatement précipités dans le terrain de la politique et dans le terrain des États pour essayer de faire face à la crise. Il y avait donc bien un problème structurel. Enfin, il y a des évolutions qui sont, elles, de nature uniquement structurelle et pas conjoncturelle. Le passage, au fond, d'un monde de souveraineté à un monde d'interdépendance, doublé d'un rééquilibrage assez radical des rapports de force internationaux au profit de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de l'Afrique du Sud, mais aussi de la Russie qui effectue une sorte de retour sur la scène internationale, etc. Au fond, c'est le symbole que les grands de ce monde ont voulu manier lorsqu'ils nous ont annoncé à Pittsburgh que maintenant on allait passer du G8 au G20. C'est dire qu'il faut prendre en compte un monde, un tiers-monde, je dirais, qui s'est affirmé. Et cette affirmation est sans doute du domaine du grand tournant sans point d'interrogation. C'est vrai a fortiori, mais je ne veux pas tout traiter, je l'ai dit, des menaces sur l'environnement planétaire, qui constituent désormais, et je le crains pour longtemps, un élément absolument décisif de l'ensemble des problèmes politiques, économiques, sociaux, de convivialité, etc. Alors si ces grandes tendances que je viens de définir comme structurelles sont vraisemblablement, disons, irréversibles, si la crise financière, économique, sociale constitue vraisemblablement aussi un horizon durable des relations internationales, la gestion des conflits, elle, reste une question absolument ouverte. Et je le dis d'emblée, ce qui vous permettra de situer un peu, comme on dit, d'où je parle, je pense que si la politique de Barack Obama concernant ces conflits devait échouer, cela accélérerait sans doute, voire sans aucun doute, le déclin des États-Unis et plus largement de l'Occident sur la scène internationale. Car ce déclin a été alimenté par les impasses que les États-Unis et le monde occidental a eu à gérer dans les dernières années. On le voit très bien, je trouve, avec la région sur laquelle je travaille depuis un peu plus de 30 ans, disons, c'est-à-dire le Proche-Orient. C'est sans doute la région du monde où l'hégémonie américaine, l'hégémonie occidentale, est la plus contestée. Largement, d'ailleurs, du fait même de la politique qui a mené l'administration précédente, celle de George W. Bush, avec cet entourage de néo-conservateurs. Je rappelle par exemple, pour ne citer que cet exemple, que la montée en puissance de l'Iran est le résultat, pas mécanique, mais presque, de l'affaiblissement par la politique américaine de deux des principaux ennemis ou adversaires de l'Iran, à savoir le régime bassiste irakien et les talibans d'Afghanistan. Donc quand je dis que les erreurs de la politique bushienne ou bushiste ont alimenté le déclin, voilà un bon exemple. Et globalement, on peut dire que le bilan de l'administration Bush, et en particulier des 4 dernières années, est absolument catastrophique. Je parle là de la politique internationale. Impasse totale entre Israël et Palestine, bourbier, je l'ai dit, en Irak, en Afghanistan, montée en puissance et comment de l'Iran, poussée des forces islamistes dans toute la région, y compris au Liban, et enfin rejet massif par les masses, comme on dit, arabo-musulmanes, des États-Unis et de leur politique. Bref, pour la nouvelle administration, s'il y a une priorité absolue dans les choses qu'il faut changer dans sa politique ou dans la politique américaine, c'est évidemment au Proche-Orient. Son ambition internationale, je vous le signale au passage, Barack Obama l'a affichée dès son discours d'investiture. Il ne faut absolument pas utiliser, à mon avis, des termes moraux pour qualifier les politiques des grandes puissances, parce qu'on s'y perd. Le problème n'est pas de savoir si Obama est gentil ou pas gentil, le problème est de savoir quelle politique il incarne. Or, il l'a dit, je cite, « L'Amérique est prête à nouveau à diriger ». C'était un moment clé de son discours d'investiture. Autrement dit, la différence avec son prédécesseur porte moins sur cette nécessité d'un leadership américain, ils sont d'accord, que sur la manière de l'assurer. Pour le nouveau président, l'Amérique doit s'imposer non plus par le hard power, le pouvoir dur, l'armée, la force militaire, mais par le soft power, le pouvoir doux. La négociation au lieu de la guerre, l'amitié avec les peuples au lieu de l'hostilité, le dialogue des civilisations au lieu du choc des civilisations. Au fond, après des années de raidissement de l'Occident autour de l'OTAN, et face à un nouvel ennemi, non plus le communisme, mais l'islamisme, voire l'islam, ça on a glissé vite de l'un à l'autre, Barack Obama entend, lui, promouvoir une politique d'ouverture. C'est, pour citer d'autres exemples que ceux du Proche-Orient, par exemple, et c'est très important, la renonciation au bouclier antimissile que l'administration Bush voulait imposer en Europe et dont les Russes ne voulaient absolument pas entendre parler. Barack Obama vient, il y a quelques semaines, de renoncer au bouclier antimissile. On pourrait aussi parler, mais c'est moins important, de la main tendue à Chavez au Venezuela, voire même de l'hypothèse de négociation avec Cuba. Mais évidemment, c'est au Proche-Orient que cette nouvelle politique d'ouverture veut s'exprimer le plus fortement. Encore un mot avant d'y venir. J'attire votre attention sur le changement de méthode qu'incarne Barack Obama par rapport à George W. Bush. Lui ne se contente pas de la diplomatie traditionnelle, des rapports avec les dirigeants. Vous l'avez vu, il parle, ou en tout cas il veut parler, aux masses, au peuple. Vous avez sans doute noté que quand il est allé à Strasbourg, dialoguer avec des jeunes Français, des jeunes Européens, quand il est allé à Istanbul, faire le discours qu'il y a fait, bien sûr, lorsqu'il est allé en Afrique, je dirais dans une part de ce qui est son identité, et puis bien sûr, on va en parler lorsqu'il est allé au Caire, il a voulu, au-delà des politiques, parler aux gens, pour que les gens comprennent une chose simple, l'Amérique change, sa politique change. Pour mettre en œuvre cette politique nouvelle au Proche-Orient, Barack Obama a, je dirais, essentiellement tiré les leçons d'un rapport extrêmement important publié à la fin 2006 par James Baker, l'ancien ministre des Affaires étrangères américain du temps de Bush père, et Lee Hamilton, qui est un démocrate. Le fil rouge de ce rapport, c'était l'idée de la centralité du conflit israélo-palestinien. Par rapport aux autres conflits au Proche-Orient, mais aussi au-delà du Proche-Orient. L'idée, au fond, qu'une avancée vers une solution du problème israélo-palestinien serait nécessaire, pas suffisante bien sûr, hein, pas suffisante, nécessaire pour que les États-Unis se retirent d'Irak et relancent la négociation avec le monde arabo-musulman, avec l'Iran, avec évidemment la Syrie, etc. Plus, et c'est une chose qui n'est pas bizarrement soulignée par les médias français, dont je ne veux pas dire du mal en général, mais on pourrait quand même en dire pas mal, c'est la volonté de Barack Obama d'insister sur l'idée du désarmement nucléaire au Proche-Orient. Alors vous me direz, bien sûr, ça vise l'Iran, évidemment, mais ça vise aussi la seule puissance nucléaire du Proche-Orient, c'est-à-dire Israël, dont Hillary Clinton a dit publiquement dans un discours remarqué qu'il fallait qu'Israël ratifie le traité de non-prolifération. Et ça, c'est une musique qu'on n'aime pas beaucoup entendre à Tel Aviv ou à Jérusalem, parce que les dirigeants israéliens ne s'en cachent pas officieusement, même s'ils ne le font pas officiellement, ils détiennent entre 200 et 300 têtes nucléaires, et ils ont tous les missiles possibles et imaginables pour les transporter à très longue portée. Alors, pour redresser la situation au Proche-Orient, on peut dire que Barack Obama a mis, vulgairement, le paquet. Beaucoup de gestes, beaucoup de discours s'inscrivent dans ce cadre, à commencer par la nomination comme envoyé spécial au Proche-Orient du président américain de George Mitchell, qui est la bête noire des Israéliens en raison d'un rapport qu'il avait publié à l'automne 2000 sur leur responsabilité dans l'éclatement de la seconde intifada. Puis vint le discours du Caire, qui au fond, si vous me permettez là aussi l'expression, enterra une seconde fois Samuel Huntington, l'inventeur de la théorie du choc des civilisations. Mais le discours du Caire prévoyait aussi l'affirmation de la volonté de négocier, y compris avec l'Iran, la dénonciation de la colonisation israélienne. Il y avait même une image étonnante, la comparaison entre les Palestiniens et les esclaves noirs des États-Unis. Et, chose encore plus étonnante, une formulation très ouverte sur le Hamas, puisque au lieu de le traiter de terroriste, comme c'était la thèse habituelle dans les discours présidentiels américains, il reconnaissait le soutien populaire dont le Hamas jouit parmi une partie des Palestiniens, et donc la possibilité d'entrer en négociation si le Hamas faisait de son côté les pas qui lui sont demandés. Je veux vous dire un témoignage personnel. Je sors de mon rôle de conférencier pour rentrer dans quelque chose de subjectif. Le hasard a fait que le soir du discours du Caire, j'étais pendant 2 heures au micro d'une très grande radio de la région parisienne qui s'appelle Beur FM, et qui, comme son nom l'indique, a un auditorat très important qui est constitué très largement de jeunes issus de l'immigration maghrébine ou africaine. Disons que c'est une radio banlieue, mais en même temps une radio qui essaye de faire, il faut le dire, des programmes de qualité. Et donc après avoir expliqué ce que je pensais du discours qui datait du midi même de Barack Obama, j'ai, avec l'animateur de l'émission, Ahmed Elki, que vous voyez peut-être sur France O, où il anime l'émission Toutes les Frances, j'ai dit, voilà, je pense, connaissant bien vos auditeurs, qu'ils sont très, très anti-américains, pour des raisons qu'on peut comprendre, mais j'espère qu'ils auront, malgré ce parti pris, mesuré l'importance du discours du Caire. Et à notre grande surprise, à l'animateur et à moi-même, nous avons eu une flambée, si je puis dire, de coups de téléphone, d'auditeurs, qui s'appelaient Ahmed, Mohamed, Karim, etc., et qui nous ont dit, mais pas du tout. Nous sommes très fiers aujourd'hui d'être arabes ou d'être musulmans, parce que, pour la première fois, le président de la plus grande puissance mondiale nous parle avec respect. Et je vous rappelle que Barack Obama avait même été jusqu'à faire une petite remarque à propos des discriminations dont sont victimes les femmes voilées dans certains pays. Contrairement à ce qu'avait cru Nicolas Sarkozy, paraît-il, il ne pensait pas à la France, il pensait à la Turquie. Mais la phrase était dite, tout cela pour dire, voilà, un signe de la manière dont un discours peut aller loin dans l'écoute. Ces jeunes qui avaient apprécié, disons, le discours de Barack Obama, et qui a priori n'étaient pas du tout pro-américains, ils sont à l'image de l'opinion publique mondiale, dont le sondage Pew, qui est fait chaque année dans 25 pays, auprès de dizaines de milliers de personnes, c'est quand même un sondage, une enquête assez sérieuse, eh bien le dernier sondage Pew nous montre une remontée absolument frappante de l'image des États-Unis en Europe, mais aussi au Proche-Orient et en Afrique. Je pense que ça n'est pas complètement étranger aux préoccupations qu'a Barack Obama lorsqu'il fait ce type de discours. Bref, on pourrait, au fond, parler de grands tournants américains, au Proche-Orient en tout cas, si du moins Barack Obama passait du discours aux actes, ce qui semble visiblement beaucoup plus difficile. Il est vrai que le fossé entre les résolutions de l'ONU et les solutions qu'elle propose, notamment pour le conflit israélo-palestinien, et d'autre part les positions du nouveau gouvernement israélien, issu des élections de janvier 2009, ce fossé est extrêmement profond. Si Benjamin Netanyahou a consenti à prononcer la formule magique « État palestinien », il n'a pas moins rappelé qu'il s'opposait à la fois à ce qu'il soit établi sur l'ensemble des territoires occupés par Israël en 1967, pendant la guerre des Six Jours, qu'il refusait que Jérusalem-Est soit la capitale de l'État palestinien, qu'il n'était pas question de démantèlement ni même de gel des colonies, pour ne rien dire du droit au retour des Palestiniens tel que le prévoit la résolution 194 qui date du 11 décembre 1948. Vous voyez qu'au Proche-Orient, il faut très longtemps pour que les choses avancent, c'est le moins qu'on puisse dire. L'administration Obama a choisi, à tort ou à raison, c'est un débat assez vif aux États-Unis, de focaliser les tractations avec Israël sur son exigence d'un gel de la colonisation, y compris à Jérusalem-Est. Il est vrai que l'extension des actuels blocs de colonisation juifs à Jérusalem-Est et autour empêcherait, je dirais l'État palestinien est une capitale. Il n'y aurait même plus la place géographique, physique, de l'installation d'une capitale, et même au fond d'un État palestinien, en tout cas d'un État continu ou contigu, puisque cet État serait coupé en deux par une ligne de colonies qui irait de Jérusalem jusqu'à quasiment la mer Morte. Alors tout l'été, vous l'avez sans doute vu, Barack Obama et son envoyé spécial ont tenu bon, ont dit non, la condition pour avancer, c'est le gel de la colonisation, et puis au moment de l'Assemblée générale des Nations unies, fin septembre, début octobre, Barack Obama a renoncé à faire du gel de la colonisation une exigence. Il a organisé un sommet avec Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas en marge de l'Assemblée générale, sans avoir obtenu la moindre concession d'Israël. Si bien qu'aujourd'hui, la suite de la relance du processus de paix n'est absolument pas clair. Personne aujourd'hui, et en tout cas pas moi, ne peut dire comment les choses vont se poursuivre. Dans son discours à l'Assemblée générale, Barack Obama a condamné à nouveau la colonisation, mais sans plus faire de son gel une condition. En revanche, il a réintroduit la notion des frontières de 1967, qui avait été oubliée par son prédécesseur. Donc on a là une espèce de flou. On ne sait pas très bien ni ce que va proposer Barack Obama, ni dans quel cadre il va vouloir avancer. Alors pour expliquer ces zigzags et justifier leur pessimisme, les Cassandres expliquent que le nouveau président américain est en difficulté sur la réforme de la santé, qu'il est piégé en Irak et en Afghanistan, et que sur le dossier israélo-palestinien, il ne pourra pas résister au lobby pro-israélien des États-Unis. Je crois que c'est vrai que la difficulté d'Obama à rompre avec la politique d'intervention active en Afghanistan l'a placé dans une situation complexe. Et aujourd'hui, il est au pied du mur avec des demandes de renforcement considérables des forces militaires américaines là-bas. Mais raison de plus, on pourrait dire, pour réussir à relancer le processus de paix israélo-palestinien sur la base d'une avancée fondée, au fond, sur le droit international, sur les résolutions de l'ONU. Il est vrai aussi que la croisade démagogique lancée par les conservateurs américains a porté un coup à l'idée de financer l'accès aux soins pour tous aux États-Unis. J'avoue, comme Français, je crois beaucoup d'autres en Europe d'ailleurs, on a un peu de mal à comprendre comment la plus grande puissance mondiale, qui se veut aussi la plus grande démocratie mondiale, peut accepter que des millions et des millions de ses citoyens n'aient pas accès à la santé d'une manière... Mais enfin, c'est vrai que ça pèse. Mais là encore, raison de plus pour engranger en politique extérieure des succès, notamment sur la question israélo-palestinienne, tout en détendant la situation avec l'Iran, apparemment c'est en cours, et avec la Syrie. J'ajoute un mot de plus sur un sujet qui est peu connu, j'en ai été frappé dans d'autres conférences en France. L'explication des hésitations de Barack Obama par le poids du lobby pro-israélien aux États-Unis me semble de plus en plus obsolète. C'est vrai que la bataille diplomatique aujourd'hui ne se déroule pas en vase clos. L'opinion publique joue un rôle. Mais de ce point de vue, Obama a plutôt manœuvré avec efficacité. Il a encouragé, disons, la naissance et l'essor d'un lobby alternatif qui s'appelle G Street, la rue juive, si vous voulez, et qui mobilise avec succès une partie non négligeable des juifs américains autour de la perspective de deux États et en dénonçant la politique qui est celle du gouvernement israélien. Simultanément, Barack Obama a exercé une pression extrêmement forte sur le lobby traditionnel, celui qui a priori soutiendrait Benjamin Netanyahou. Et l'argumentation d'Emmanuel Ram, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, secrétaire général, si vous voulez, de la Maison-Blanche, a été bien au-delà du Proche-Orient. Dans une réunion privée avec les principaux dirigeants du lobby traditionnel, il les a mis en garde d'une manière extrêmement forte sur les risques que comporte pour les Juifs américains, pour leur situation aux États-Unis, le fait de défendre en permanence les intérêts d'Israël plutôt que ceux de leur pays. À ma connaissance, jamais un dirigeant américain à un haut niveau n'avait tenu ce type de discours à l'AIPAC et aux autres constituants du lobby là-bas. Et de fait, vous aurez vu, si vous regardez les journaux qui en parlent, on entend très peu le lobby traditionnel en ce moment. Il n'y a pas de mobilisation pour Benjamin Netanyahou, a fortiori pour Avigdor Lieberman, qui se mène aux États-Unis de manière forte. Et pour cause. Au printemps 2009, un sondage d'Israel Project, Israel Project c'est un site, une organisation pro-israélienne extrêmement active, montrait un déclin, j'utilise volontairement le mot vertigineux, du pourcentage d'Américains affirmant que les États-Unis doivent soutenir Israël. Ce pourcentage est passé en un an, donc du printemps 2008 au printemps 2009, de 71% à 44%. Et cette évolution, on la retrouve à un moindre degré chez les Juifs américains eux-mêmes. Selon un sondage alors beaucoup plus récent, de septembre, 72% des Juifs américains considèrent que la solution des deux États est la bonne et qu'elle est conforme à l'intérêt d'Israël et des États-Unis. 60% s'opposent à l'expansion des implantations en Cisjordanie. Et là, je le dis au passage, on est au-delà de la conjoncture. Quelqu'un qui est un pilier du lobby depuis de très très longues années, c'est un vieux monsieur, il s'appelle Charles Bronfman, s'inquiète publiquement dans une déclaration du fait que le conflit avec les Palestiniens ruine les relations d'Israël avec les jeunes juifs de la diaspora. Et il dit, je le cite, « Maintenant, tout le monde se préoccupe des Palestiniens. Maintenant, nous sommes des occupants, des agresseurs qui vivent par l'épée. C'est comme ça que les médias nous voient, et cela a de l'effet sur la population en général et les Juifs en particulier. Et le sociologue Stephen Cohen constate que les jeunes Juifs en particulier sont, je cite, « moins engagés en faveur d'Israël ». Et il donne un chiffre, moi, qui m'a fait réfléchir, je dois dire. Seuls 54% des jeunes Juifs américains sont, je cite, « à l'aise avec l'idée d'État juif », alors que 80% de leurs aînés l'étaient. Bref, il y a quelque chose de structurel, là, qui est un coin enfoncé dans le système d'influence analysé par le rapport, le fameux rapport de Mersheimer et Walt. Et je pense que ce coin-là va peser dans l'avenir. On voit donc que l'exemple du Proche-Orient est assez éclairant. Éclairant, bien sûr, des grandes tendances, mais éclairant aussi de la difficulté dès qu'on rentre dans le détail de l'analyse et des contradictions de cette situation. Ce qui est clair, me semble-t-il, à travers ce que j'ai essayé de vous dire, c'est la prise de conscience par l'establishment américain, au-delà de Barack Obama, de la nécessité de changer de cap au Proche-Orient, mais en même temps, la difficulté qu'il a à mettre en œuvre ce tournant. Et au-delà des hommes, des lobbies, du caractère de tel ou tel, etc., il en va, à mon avis, de l'extrême complexité des relations internationales actuelles. Et j'ajouterai pour conclure, d'autant que les alternatives ne sont pas claires, c'est le moins qu'on puisse dire. Pensez à la crise, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est plus facile de limiter les bonus et de faire la chasse aux paradis fiscaux, je suis évidemment pour, pas de problème, que de définir un système alternatif cohérent à la mondialisation actuelle. Je sais que les altermondialistes ont développé beaucoup de pistes, mais on n'en est pas à la construction d'un modèle auquel on puisse se référer comme un modèle effectivement utilisable. Je parlais de l'environnement de la planète trop brièvement. Plusieurs choix dans ce domaine sont connus, bien sûr, mais en même temps, on sait qu'ils sont très difficiles à impulser. On voit chez nous, avec la taxe carbone, le type de débat qui peut intervenir. Plus un problème politique et moral à l'échelle internationale que nous oublions souvent en France, à savoir, et ça me paraît important, de quel droit pouvons-nous, nous, exiger du tiers-monde, entre guillemets, qu'il renonce au développement dont l'Occident a profité et profite sous couvert, et c'est juste, de protéger l'environnement et d'empêcher la situation du réchauffement climatique de s'aggraver. Au-delà, par exemple, j'ai dit tout à l'heure le passage symbolique du G8 au G20. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit, parce que le G20, c'est une photo de famille comme le G8 l'était. La vraie question, c'est comment on organise le multilatéralisme avec 192 États membres des Nations Unies. Et donc, comment on réforme les Nations Unies pour permettre une gestion multilatérale. Or, comme vous le savez, la réforme des Nations Unies, c'est un trou noir dans lequel, par exemple, Kofi Annan est tombé, pour avoir trop insisté sur les thèses qui étaient les siennes. Et pourquoi ? Parce qu'une réforme des Nations Unies, ça veut dire un rééquilibrage des pouvoirs du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale au profit de l'Assemblée générale. Ça veut dire un élargissement du Conseil de sécurité. Il faut choisir qui, comment. Et surtout, ça veut dire, à terme, une remise en cause du droit de veto. Et soit dit entre nous, et pour le micro, on voit mal comment 60 années, 65 années bientôt, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le fait que 5 puissances étaient victorieuses dans cette guerre justifie encore aujourd'hui le fait qu'elles aient un droit de veto. On ne voit pas comment cette question de la gestion multilatérale du monde pourrait avancer sans une réforme radicale des Nations Unies. Je voudrais faire une ultime mise en garde avant de conclure, je peux ?
Oui, il reste 3 minutes.
Voilà. Je dois dire, il y a une tendance en France, chez les intellectuels et au-delà d'ailleurs, à toujours chercher des idoles, à gauche, à droite, hein, et à toujours vouloir faire des choix, choisir son camp, à gauche, à droite aussi. Longtemps, le déclin des États-Unis et de l'Occident a été perçu par les uns comme une avancée vers le socialisme, la cause des peuples, la paix, etc., etc., et par d'autres, au contraire, un danger majeur. Si on a pu raisonner comme ça, je ne veux pas juger, chacun a vécu ses années comme il les a vécues, moi aussi. On ne peut plus fonctionner comme ça. Rien ne serait plus absurde que d'essayer de trouver dans le déclin ou la montée en puissance de tel ou tel quelque chose qui, moralement, serait positif ou négatif. La vérité, c'est que quand la Chine, l'Inde, la Russie occupent une place plus importante sur la scène mondiale, ça n'est pas pour nos beaux yeux, ni pour les beaux yeux de personne, mais pour défendre leurs intérêts. C'est une bataille de puissance, beaucoup plus qu'une bataille idéologique. Nous ne sommes plus dans l'époque où les batailles internationales pouvaient avoir une dimension idéologique majeure. Nous sommes dans un autre monde, et il faut bien en avoir, je crois, la conscience. Si le grand tournant dont nous parlons dans l'état du monde, qui sert de titre à ce volume de cette année, ne se produit pas réellement, ne se traduit pas dans la réalité internationale, non seulement les bouleversements des rapports de force n'amèneront rien de positif, mais ils peuvent même être porteurs de dangers majeurs pour la sécurité et le développement de la planète. Je vous remercie de votre attention.